cabina.
Éternité, nous te célébrons. Nous chanterons ta bonté. Nous proclamerons ta fidélité. On dira qui voudra nous entendre combien tu as été bon et tu continueras à l'être pour nous. Et que cette bonté se manifeste encore en ces jours. Alors que nous voulons être en contact avec ta sainte parole, fais-nous encore du bien. Que les demandons au nom de Jésus. Et quelqu'un m'aide à dire Amen. Dieu soit béni. Et prenons nos places. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci à chacun de nous, à tous ceux qui, depuis plusieurs mois, ont appris à répondre présent à ces rendez-vous bimensuels. Nous nous retrouvons chaque deux mois pour partager autour de la parole de Dieu. Et un partage qui concerne principalement les hommes et les femmes qui sont actifs et actives dans l'œuvre de Dieu. Et les grands thèmes que nous avons commencé à aborder depuis, c'était la fin de l'année passée? Début de cette année, hein? Ok. Donc, c'est les 18 secrets de la longévité et du succès dans les ministères. Si d'aventure vous avez raté l'un ou l'autre secret, je pense que la technologie nous permet de rattraper, bien qu'en retard, le retard. Et nous en sommes à 10 secrets. Et aujourd'hui, nous allons voir la 11e secret, les 11e secrets plutôt. J'aimerais vous demander de noter ces 11e secrets, c'est savoir se relever après avoir reçu des coups. Ça, c'est un secret important pour pouvoir non seulement durer, mais avoir du succès dans les ministères. Savoir se relever après avoir reçu des coups. J'aimerais que nous puissions lire trois passages des Écritures qui vont nous aider. Déjà, nous, tout notre enseignement, c'est en 1h50, 2h. Nous essaierons de parler en 50, 60 minutes. Nous aurons une petite pause de 7 à 10 minutes et puis nous allons répondre. Enfin, que la nourriture, même si elle est spirituelle, soit digeste, pour que nous ne fassions pas une constipation à force de trop de consommation. Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 11 au verset 20. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas, Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-il, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après l'avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Dites avec moi, pensant qu'il était mort. Ah, j'aimerais vous dire, il y aura des moments dans votre ministère, vous-même et même les gens vont penser que vous êtes mort. Ils vont penser que c'est fini. Ils vont penser que votre vie, votre ministère appartient au passé. Ce que j'aime, c'est qu'ils ne vont que penser. Le verset 20 dit, « Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva. » Dites avec moi, « Il s'éleva. » Ah, je bénis Dieu. Quoi que l'on va penser que tu es mort, tu finiras par t'élever. Il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quelle force dans cette parole. Quelle puissance dans cette parole. Il y a des moments où j'ai l'impression, même que ce n'est pas important des fois de prêcher, on lit simplement, on laisse la puissance de la parole de Dieu nous envahir. Elle est tellement forte en elle-même. Nous ajoutons 1 Samuel au chapitre 20. 1 Samuel au chapitre 20. Nous lirons du verset 27 au verset 33. Du Quand je préparais cet enseignement, Dieu me disait, Roland, ce que tu vas lire là, surtout celui-là, quelqu'un soit est en train de vivre cela. J'aimerais parler aussi comme un prophète, pas de malheur, parce que Dieu quelquefois permet certains chemins. Quelqu'un dans les jours qui viennent vivra cela. J'ai il y a quelques années, en 2005, prêché une série au troisième culte à la Borne. Les titres étaient Joseph, une histoire des tuniques. J'ai prêché en 5 séances. Et la troisième séance, j'avais prêché sur la tunique de la honte. Et c'était un message fort, les gens ont pleuré. Je me souviens en 2007, je me suis retrouvé en Belgique et une jeune fille m'a appelé au téléphone et dit, pasteur, Mathé a noté à comité à la. Dans une cassette, en gozoango sikoyo, yoka yango bien. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, c'était plus facile de prêcher comme j'avais prêché que de vivre la honte. La honte. Unique. De la honte. Mais ce que j'aime aussi, la tunique de la honte n'est pas une tunique permanente. Elle finit toujours par être enlevée. 1 Samuel chapitre 20, verset 27 à 33. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. » Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous allons dans la ville, nous avons dans la ville un sacrifice de famille. Et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. » C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. » Vous n'avez aucune idée pour qui des gens pour lesquels toi en vis et c'est l'insécurité. Et maintenant, envoie les chercher. Qu'on me l'amène. Ah, écoutez ce que Saül dit, car il est digne des morts. J'ai envie de demander à Sali Lini. Digne des morts. Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Écoutez ce que la Bible dit à la fin. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. J'aimerais que tu saches, il y a quelqu'un qui a résolu de te faire mourir. Il est prêt à tout pour que cela arrive. Mais si Dieu est avec toi, il restera au niveau des projets, des pensées. J'aimerais qu'on lise aussi 2 Samuel chapitre 15, et là nous allons lire plusieurs portions, 1 à 6, 12 à 14, et puis 30 à 31. Je répète, 2 Samuel 15, 1 à 6, 12 à 14, et puis 30 à 31. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et s'éteignait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, les saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait les cœurs des gens d'Israël. Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo, Achitophel, les Guionites, conseillers de David. La conjuration devint puissante et les peuples étaient de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Verset 30 à 31, des passages, des fois qui sont faciles à lire, mais pas faciles à vivre. Quand on a connu la gloire, on a connu la royauté, on a connu les honneurs et vivre. C'est l'écoute de ce que la Bible dit. David monta la colline des Oliviers, il montant en pleurant. et la tête couverte. Il marchait nu-pied. Et tout ce qui était avec lui se couvrait aussi la tête et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis en ayant les conseils d'Achitophel. Le premier texte de Actes des Apôtres, chapitre 14, est un texte que nous prenons comme base pour cet enseignement. Et les deux textes vont nous servir d'illustration. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions retenir certaines choses que je voulais poser comme postulat des bases. Postulat des bases. Le tout premier postulat, nous devons savoir que la vie du ministère n'est pas faite que de haut. Mais il y a aussi des bas. J'aimerais le répéter. La vie du ministère n'est pas faite que de haut. Mais il y a aussi des bas. Il arrive quelquefois, les hauts sont très hauts et les bas sont vraiment très bas. Il y a des moments de souffrance, des moments de larmes, des moments de doute, des moments de remise en question. Ça, c'est une réalité que nous devons retenir. Le deuxième postulat que j'aimerais mentionner, c'est que dans la marche du ministère, il y a des moments où non seulement l'on reçoit des coups, mais l'on reçoit des coups qui peuvent être mortels. Et ces coups que nous recevons, soit on est préparé à les recevoir, mais la plupart des fois, on n'est pas préparé à les recevoir. Mais dans tout le cas, j'ai appris au travers de cette vingtaine d'années dans le ministère, quelle que soit la préparation dont on a été l'objet, un coup fait toujours mal. Même si psychologiquement, émotionnellement, d'une manière ou d'une autre, si vous ne l'avez jamais connu, j'aimerais que vous sachiez que vous connaîtrez ça un jour. Vous recevrez des coups sur la route du ministère, des coups mortels. Troisième postulat, c'est que les coups que nous recevons sur le chemin du ministère peuvent avoir plusieurs acteurs. Ces coups peuvent venir des hommes ou ces coups peuvent venir des esprits et des coalitions qui se serviront sûrement des hommes, mais les acteurs, les vrais, sont spirituels. Et quand ça peut venir des hommes, nous verrons cela dans la suite, ça peut être des hommes soit que nous connaissons ou des hommes que nous ne connaissons pas, des hommes et des femmes que nous côtoyons ou alors des hommes et des femmes que nous ne côtoyons pas. Quelqu'un dit, les coups reçus de la part de personnes que nous ne connaissons pas sont faciles à supporter. Mais les coups les plus difficiles, c'est quand ça vient des personnes que l'on connaît et peut-être avec lesquelles on a une relation d'intimité, une relation assez particulière. Dans Psaume chapitre 55, David qui a connu cette réalité, l'exprime. Psaume 55, verset 13. Verset 15, lisez avec moi ce passage où on voit les psalmistes exprimer son cœur. Psaume 55, verset 13, verset 15. Écoutez ce que le psalmiste dit. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Au verset 15, il rappelle même les souvenirs de la marche ensemble. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. On voit sa souffrance parce que cette personne qu'il appelait son ami, et il dit même son confident, c'est celui qui finalement lui donne des coups. Et j'aime l'image qu'il utilise. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Si c'est quelqu'un qui déjà avait présenté une image d'adversité, j'accepterai cela. Il ajoute encore, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Quatrième postulat que j'aimerais mentionner, c'est que si les coups en eux-mêmes ne peuvent pas toujours nous détruire, je dis pas toujours, peuvent nous détruire, mais ils n'ont pas toujours cette capacité. Si les coups reçus en eux-mêmes ne peuvent pas toujours nous détruire, ce sont nos réactions devant les coups reçus qui déterminent notre futur. Le problème, ce n'est pas les coups que tu reçois, que je reçois. Le problème, c'est comment je réagis. Comment tu réagis? Soit nous résistons et nous nous relevons, ou soit alors... Je dois changer les micros, c'est ça? Alors je disais, soit nous résistons et nous nous relevons, ou soit alors nous sommes détruits. Cinquième postulat, c'est que quelle que soit la cause et l'origine des coups que nous recevons, il y a toujours des leçons à tirer et des richesses à gagner au travers de toutes ces situations. Il y a toujours des leçons à tirer et des richesses à gagner au travers de toutes ces situations. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Pour dire que ce matin, je m'adresse à deux types de ministres de Dieu, alors que j'aborde ces points. Premièrement, je m'adresse à ceux qui sont sous l'autorité de quelqu'un et qui peuvent connaître des coups reçus venant de trois sources. À ceux qui sont sous l'autorité de quelqu'un. Tu es un pasteur stagiaire, tu es un ministre, responsable du département, mais tu travailles sous l'autorité de quelqu'un. Et là, ces genres de personnes peuvent recevoir des coups sur les chemins du ministère venant de trois sources. La première source, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes, par les comportements, par des manquements, nous verrons cela, peuvent ouvrir la porte et ils sont frappés. Deuxième source, ils peuvent recevoir des coups de leurs collègues. Pas du titulaire, mais de ceux qui partagent avec eux le ministère. Ils peuvent vous donner des coups et bien le faire. Nous verrons cela dans la suite. Mais troisièmement, malheureusement, les coups peuvent venir aussi du Père. Bétio moine. Grand kibote. Nous verrons cela aussi dans ces textes. Donc ça, c'est la première catégorie, ceux qui sont sous l'autorité de quelqu'un. Donc je disais, peuvent recevoir des coups à cause d'eux-mêmes, leur manquement, leur écart dans les langages, dans les comportements, et peuvent recevoir des coups de leurs collègues, peuvent recevoir aussi des coups de leurs responsables, c'est-à-dire de qui ils dépendent. Deuxième catégorie des personnes à laquelle je m'adresse en ces jours, c'est ceux qui ne dépendent de personne, ceux qui sont dans une position de leadership, ils sont pasteurs titulaires, ils sont responsables d'un ministère. C'est-à-dire qu'ils ont des personnes sous leurs pieds. Pour eux, il y a en général deux sources de coups, principalement. Il y a une troisième source qu'on peut ajouter en appendice. La première source, c'est eux-mêmes aussi, par leur comportement, par leur manquement. Deuxième source, ce sont ceux qui sont sous leur responsabilité. Leurs enfants, qui peuvent, nous verrons, les trahir, qui peuvent faire des choses qui leur font mal. Et troisièmement, comme en forme d'appendice, d'autres serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas forcément dans leur église locale et dans leur ministère. Et Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 11 à 20 que nous avons lu, nous enseigne trois choses principalement concernant les coups que l'on peut recevoir dans la vie et sur le chemin du ministère. La première des choses, c'est que la plupart des coups, nous les recevons après des grandes victoires. Nous la faisons attention. Quand nous accomplissons les grandes choses, en général, c'est l'euphorie. C'est des fois aussi un moment où on n'est pas trop attentionné. Ma petite expérience m'a montré que les grands coups que nous recevons sur le chemin de la vie, surtout du ministère, bien après des grandes victoires, des grands moments de réussite. Remarquez l'apôtre Paul ainsi que Barnabas. Ils arrivent dans cette contrée, ils font un merveilleux travail. À Lystre et à Icône, un merveilleux travail. J'ai pas souvent vu ce genre de réaction après qu'ils aient fait un travail. Où on a voulu faire l'aide de Dieu. On dit, toi, tu t'appelles Jupiter, toi, tu t'appelles Mercure. Ils font un travail, les gens disent, waouh, de Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Acte 14, verset 18 dit, à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Faisons attention, après des très très grandes victoires, j'aime beaucoup quand Judas est allé combattre, ils ont obtenu de grandes victoires. L'Éternel lui dit, par la bouche de son serviteur, le prophète dit, faites attention. À cette même époque, le roi qui est allé va se préparer et va venir te combattre. Combien de fois nous devenons distraits? Après des grandes victoires, après des grandes réussites. La deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est que les coups que nous recevons sont souvent inattendus, non prévus et non imaginés. Ils arrivent subitement. Ils arrivent comme un ouragan, ça arrive comme une tornade dans un ciel bleu. Pas de signe annonciateur avant. La Bible dit à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Mais le verset 19 dit, alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville. Ils sont passés de l'euphorie sans transition à un moment où la souffrance, j'aimerais dire, quand il recevait ses pierres, il n'était pas sous anesthésie. J'aimerais dire, après qu'on vous ait proclamé Dieu, faites attention, des pierres vous attendent. De Dieu sous forme humaine. Et la plupart des fois, on est étonné, on commence à dire, Menzambe, tu es au été. Ou là, qu'est-ce qu'un gabi côté, il ne montre pas tout. Sans transition. On peut passer du héros à zéro, du meilleur au vilain. Et troisième chose que ce texte nous annonce et nous enseigne, c'est que les coups reçus, plus ils sont grands, plus ils annoncent aussi des grandes victoires après. En général, si vous voyez que vous êtes la cible du diable, plus les coups sont grands, vous n'avez pas besoin d'aller en retraite. C'est une révélation que la grandeur sommeille en vous. Si vous voyez des attaques, très grandes attaques, ne cherchez pas à aller en retraite. J'ai en mémoire en 89, je suis allé voir mon aîné, le pasteur Sembe, j'ai lutté avec l'appel de Dieu, je suis allé le voir. Nous, on l'appelle toujours Bokulaka. Je dis Bokulaka. À l'époque, Mangengenge n'était pas aussi fort et célèbre comme aujourd'hui. Je suis allé, je dis Bokulaka. Quand il est content, il m'appelle Okitondo. Il dit Okitondo. Yo, osamo kangemi, ndobo sekoto na monoko. Kolonda zera ratangwa bimisa. Je ne suis plus allé à Mangengue. Vous savez, il y a des prières quelquefois qui sont inutiles. La profondeur de votre nuit annonce toujours la grandeur de votre jour. Et des fois, les chants que nous allons chanter les jours trouvent leur force dans la noirceur de notre nuit. Ça, j'aime beaucoup quand le bishop Tilly Jacks prêche et dit, il y a des moments, tout ce qu'il faut faire, c'est s'arranger de ne pas mourir. Une chose merveilleuse, il dit, Et comble avec la nuit, quand on le connaît sur le plan marche, sur le plan ministériel, c'est que on aurait bien voulu que quand je connais la nuit, que tout le monde connaisse la nuit. Mais le grand problème, c'est quand moi je connais la nuit, d'autres connaissent les jours. Aux apprendre un pire qu'il y a terrible, aux apprendre mon gars, mais qu'on a 10 000 les oeufs à Kakabo. Je me suis dit, on a besoin d'un un homme me disait un jour, pasteur, puis soit pire, la mission que dans l'escar, ange Gabriel, il faut que dans l'escar, on colloie le moko. Le bishop Diligex, illustrant cela, il dit, quand il fait jour ici, il fait nuit au Japon. Et laissez simplement le globe terrestre tourner, et les choses vont changer. Certaines fois, les seules choses à faire, j'aimerais les dire à la manière des quinoa, pique les spirituellement. Au coup faté. Et qu'on les canne. Et qu'on les canne. Quand je préparais cet enseignement ce matin, Dieu m'a donné cette image. Ça ne m'est pas souvent revenu. Il y a quelqu'un qui a eu, je ne sais dans quel domaine. Et tu sais que ce que les autres veulent faire, c'est ils ont le droit de le faire, mais Dieu m'a dit, il va te donner une nouvelle chance. Dieu m'a donné cette image, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. La Bible dit bien, elle était surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée vers le maître. Je ne pense pas que c'était avec douceur. C'était avec agressivité. Puis on l'a jetée devant le maître. Elle s'est retrouvée. Sûrement, elle a déjà assisté à plusieurs reprises. Lapidation. Il a vu ces gens ramasser les pierres. Ils ont dit au maître, la loi de Moïse dit que les telles femmes, il faut les lapider. Et elle s'attendait à recevoir les premières pierres sur le front et puis le crâne est fracassé sur le menton. Elle était accroupie. Et ce que j'aime même quand nous sommes fautifs, c'est le maître entre en action. Il doit arrêter la tempête. J'essaie d'imaginer cette femme peureuse. Combien c'est merveilleux sur le chemin de la vie quand on s'attendant à ce que des pierres descendent sur nous et puis d'un moment on commence à ouvrir un œil et puis on voit que tout le monde est parti. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ta tempête va passer. Ce que tu méritais, ce que tu devais recevoir, tu ne vas pas le recevoir parce qu'il a décidé que cette tempête passe. Combien c'est merveilleux de s'entendre dire, va et ne pêche plus. Alors qu'on s'attendait à ne plus vivre. Grand coup reçu annonce souvent des grandes victoires. Écoutez ce que l'avait dit à 14, 20 à 21. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva. Il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. L'avait dit, quand ils eurent évangélisé cette ville, il fit un certain nombre de disciples. Waouh! En original, on lit un très grand nombre de disciples. C'est lui qui donc pensait qu'il était mort au verset 19. Il a eu encore des disciples à faire. Alors, j'aimerais commencer par le premier scénario, cas de ceux qui sont le numéro 1, c'est-à-dire qui sont titulaires ou responsables des ministères. Quel genre de coups ils reçoivent? D'où cela vient? Comment sont-ils appelés à réagir? La première source des coups qui les amène à être comme demi-morts, comme l'était Paul. Ce sont des coups posés par eux-mêmes, par nous-mêmes. Et parmi ces coups, il y a premièrement dû à l'incompréhension. La compréhension tout autour. Nous ne communiquons pas bien, ne partageons pas bien certaines choses. Et cela entraîne que les gens agissent ou réagissent d'une certaine manière. Dans Jean chapitre 6, versets 60 à 61, et les versets 66, Jésus-Christ tient un discours différent de tout autre discours qu'il a tenu avant. Et la Bible dit, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Verset 60, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ces sujets, leur dit, cela vous scandalise. Il y a comme une distance parce que les autres n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit. Et lui-même reconnaît qu'ils sont en train de murmurer. Mais écoutez la réaction au verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière, cessèrent d'aller avec lui. Quel choc que d'être quitté. Peut-être avoir un troupeau, avoir des gens sous sa responsabilité pour réaliser ce que ça fait. Et à la base, c'est l'incompréhension. Il y a communication, des choses vraies, mais apparemment il y a écart dans la compréhension. Il est sincère, inspiré, il dit des choses, mais les autres ont difficile à appréhender cela, à capter cela. Homme de Dieu, préparons-nous à l'incompréhension. On a difficile à savoir que dans une église, dans un auditoire, nous n'avons pas toujours un public homogène. Où tout le monde comprend tout de la même manière. Tu serais étonné, tu finis un message, quelqu'un d'autre veut te transporter sur un chipo, il dit, quelle révélation. L'autre dit, ok, mais retraite. Ça me rappelle quand... On était jeunes dans la foi, on avait un leader fantastique. Il avait un côté humoristique, peut-être j'en ai pris un peu par contagion. Le pasteur Veilly nous enseignait sur l'évangélisation efficace. Dans l'évangélisation efficace, je rigole moi-même parce que ça me remonte comme un ruminant. Il me disait, quand vous allez évangéliser, rassurez-vous que c'est lui à qui vous vous adressez a compris. Il dit, l'efficacité de l'évangile va et dans l'inspiration, mais et dans l'intelligence. Alors, il nous a donné un exemple. Il dit, ils étaient allés à l'époque à Limité, dans le cadre du campus pour Christ évangélisé. Il trouve un vieux papa, il lui présente l'évangile, il lui présente l'évangile. Puis, à la fin, il dit, papa, est-ce que l'ongo yambaye so? Là, le même, il dit, papa, founa yambaye quoi? Papa, l'église, moi, yambaye so, il dit, founa yambaye. Il dit, pointe l'ongo yambaye. Bon, ce qui baso l'andaye, papa. Il dit, j'ai passé 20 minutes à parler et je pensais que la personne comprenait. Et c'est quand je vais l'amener à la décision. Donc tu crois qu'il a compris et pourtant il n'a rien compris. Ça, c'est des fois aussi notre problème dans nos églises évangéliques, pentecôtistes. Nous avons des vocabulaires, nous avons l'impression que tout le monde connaît ça. D'arriver devant certaines personnes, tu parles même des recevoir. Qui se dit recevoir? Et l'incompréhension peut être à la base. Tu t'inspires que tout le monde fasse cette prière à genoux. Tu me souviens qu'à genoux, un des pécés, Kanda, Zolaksani. Deux dimanches passés, juste avant, on a fini les séminaires, je pense, les vendredis. J'ai été appelé à un restaurant, j'ai rencontré un homme qui vient de Paris. Et c'est quelqu'un d'origine camerounaise, mais qui est devenu français. Et il m'a appelé et dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu as du culot? Il dit, c'est la première fois que je suis venu à votre église le jeudi. Et à peine on commence à prier, pasteur, en plus, il n'avait plus. Et au moment de la prière, je t'entends dire tout le monde à genoux, dit pasteur. J'étais en Versace, acheté 1400, et tu me faisais mettre à genoux dans la boue. Moi-même, je me mettais à genoux, je disais 1400$ à genoux. Simplement pour dire, il y a des choses pour lesquelles toi et moi, on ne se pose pas des questions, mais pour quelqu'un, c'est grave et grave ici. Incompréhension, on va élever les mains. C'est pour que Dieu entende. Il te dira, ça sont des bigoteries, ça. Compréhension. Alors nous dit, préparons-nous à ces choses. J'aimerais te dire, mais dire, nous ne connaîtrons pas toujours l'unanimité. Et l'homme de Dieu qui recherche l'unanimité, c'est un homme de Dieu immature. Le pasteur Vernon m'a appris à avancer avec ceux qui avancent. Avancer avec ceux qui avancent. J'ai souvent relaté cette histoire. J'ai terminé de prêcher un dimanche durant cette période. Le pasteur Renaud était absent en 2004 et j'ai prêché une série sur il y aura des temps difficiles. Je sors du culte à midi et midi 30. Je rencontre un premier groupe. Waouh! Ils se parlaient entre eux. Les messages étaient fantastiques. Oh là là là, le pasteur Dallo, ces derniers temps, il est inspiré. J'ai vu quelqu'un, je ne m'aurais pas cité son nom. Et vous, mes amis de la borne, ne vous mettez pas aussi à réfléchir. Faisala. J'ai vu quelqu'un qui s'est levé et a dit moi, ici, il n'y a qu'un seul pasteur, Jacques-André Vernon. Et il parlait sciemment pour Nayoka. Il m'a vu et dit Motey a de l'os, moussa dans la cassette, n'a pas de marteau, n'a pas de bouc à bouc, faut Motey. Faut Motey. Et le plus étonnant, juge, je voulais passer, il dit Bolingine, Sabino. Et l'on a maté à l'obac, eh bien, 52 fois. Eh bien, 52 fois. Comme on a eu, l'obac, eh bien, 52. Je voulais entrer dans mon vécu, je suis retourné. Je suis allé chez Alain Yang, je dis Alain. Et sans à l'époque les cassettes VHS. Dites, on a trouvé ça la copie, on a que nous tirons dans la chaîne, la télévision, mais ça, il a quand même rapide. La salle, on a combien d'années que Viviane a vu aux Oliaté, aux Oliaté. Je voulais lui dire, j'ai à manger une autre nourriture. N'a tchébo, n'a bandi, eh ben, un, eh ben, deux, eh ben, n'a souka 52. Ah, ça, il a raison, quoi. Donc, pendant que moi j'ai prêché, lui comptait. Et la meilleure, c'est qu'il m'a rendu service. Vous savez, nos ennemis, des fois, nous rendent service. Il y a des gens qui nous aiment tellement que même nos défauts sont des qualités. Papa, tant que l'on a battu, on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit mais un ennemi, il t'aime pas tellement qu'il cherche la petite bête. Au dimanche, il y a un matika qui a dit eh ben, à bout, à cause de Yamoutouan, et Sengoto et Sengote. Et recherchons jamais l'unanimité. Jamais. Jamais. Même Jésus n'a jamais recherché l'unanimité. Deuxième source des coups, c'est des moments de passage, des moments difficiles. Parmi ces moments difficiles, c'est la maladie, des difficultés. Nous recevrons des coups durant les moments où peut-être physiquement nous sommes diminués, durant des moments où nous passons par des chemins difficiles. Dans Marc chapitre 14, verset 50, parlant de Jésus au moment de son arrestation, la Bible déclare, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un moment où il a mal, mais les gens les lâchent. Connaîtront cela. Pierre est parti. Jean est parti. Tous ceux qui étaient fidèles. Il y aura des moments où vous passerez par des moments difficiles. Vous connaîtrez cela. Vous connaîtrez cela parce que vous avez un cœur, pas de coups de fil, pas de visites. Troisième source, problème qui ont nous-mêmes directement, sont des problèmes, des comportements qui ont effet sur le ministère et sur l'œuvre de Dieu. Légèreté. En parole, légèreté dans les comportements, infidélité, problème des couples et même quelquefois divorce. Problème peut faire que nous recevons des coups et des coups que nous recevons. Et comme je dis, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Légèreté dans les comportements, fidélité, problème des couples. Même des divorces. Souvenez-vous de tous ceux qui ont participé aux premières séances. Nous avons dit qu'un homme de Dieu doit faire très très attention à ce que nous appelons les instants de folie. Les instants de folie sont les instants où tu es saisi comme par une force invisible qui te montre apparemment qu'elle intervient au moment et qui te cache les conséquences. J'ai un homme de Dieu avec lequel j'ai eu à parler un jour, c'était à Butembo. Il vient d'être mis sous discipline dans son église, 8 mois. Il dit, j'arrive pas à expliquer. J'ai toujours été fidèle à ma femme, 12 ans. Alors qu'il était en train de faire la délivrance de cette jeune fille, et cette jeune fille est tombée, il dit, j'arrive pas à expliquer. Peut-être que ma femme, à cause de plusieurs maternités, sa poitrine n'est plus attrayante, et j'ai vu cette jeune fille qui est tombée. Je me suis surpris en train de la palper. J'ai pensé qu'elle était dans l'inconscience. Elle a repris conscience, elle a crié. Il dit, j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas expliquer comment j'ai fait ça. Légèreté en parole, légèreté en acte, fidélité, problème de couple. Ça amène quelquefois que nous puissions recevoir des coups. Quatrième source, c'est l'abandon des fils. Abandon des fils. Dans l'abandon des fils, j'aimerais surtout prendre l'abandon des fils parce qu'on n'arrive plus à se renouveler et à se nourrir suffisamment. Abandon des fils parce qu'on n'arrive plus à se renouveler et à se nourrir suffisamment. Là, je pense, nous en avons aussi parlé lors de l'une des séances. J'ai beaucoup aimé un pasteur venu des États-Unis et il y a quelques temps, il a dit, il est bon que nos membres ne restent pas à l'église simplement par loyauté, simplement par attachement. Qu'ils restent parce qu'ils sont nourris. Il a dit, même un enfant, si tu n'arrives plus à bien préparer, tu te rendras compte qu'il va souvent manger chez les voisins. Quand tu mets à table la nourriture aussi, mais il grignote à peine. Par fidélité. Combien c'est important que nous, serviteurs de Dieu, apprenons à nous renouveler. Sinon, nous risquons d'avoir des enfants qui trouvent mieux ailleurs. Nous l'avons dit, les hommes de Dieu, nous devons être des travailleurs. Il arrive de fois, on a des hommes de Dieu paresseux qui ont le temps pour regarder la télé, regarder les matchs, et des fois qui viennent préparer les prédications, là, juste sur la chaise. Bac sans un mauvais balai. Une fois, ça va encore. Quand c'est le style de vie. On commence le culte, je suis au bureau. Tu grignotes 3 ou 4 versets. Et entre-temps, des gens peuvent aller ailleurs, ils s'écoutent, waouh, quelle nourriture. Sans que c'est quelqu'un qui a prié, c'est quelqu'un qui s'est préparé. Votre fils dira, n'a qu'à la naïoka. N'a qu'à la naïoka. Parce que par loyauté, il va revenir. Quand il revient, il retrouve encore un bricoleur. J'ai vu d'autres, à force de ne pas être nourris, commencer à devenir des membres presque des deux églises. Là où il reste par loyauté, et là où il va parce qu'il est nourri. Et des fois même des gens élevant en responsabilité. C'est pour ça que c'est notre responsabilité en tant que leader de nous renouveler. Dans Jean chapitre 1, verset 35 à 36, et Jean chapitre 3, verset 26 à 27, la Bible nous parle un peu de cela. Chapitre 1er. À 36. Le lendemain, Jésus était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jean plutôt. Le lendemain, Jean était là encore avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voilà même au verset 37. Les deux disciples entendirent les paroles et suivirent Jésus. Jean-Baptiste, le même message. Convertissez-vous. Convertissez-vous. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, Tanga Masou, mon asinatika nanga. Pasteur Soa Matgarboye, Kobo, Bokabaye Kobo. Il y a 3 ans, Nazaki n'a pas longue en Rosibo. 4 ans après, il y a eu le Romsous. Monsieur le Bagimater, il y a eu le Tangotchangi, il y a eu le Bateau Baza concerné. Ngakuna Nazaki. Un dimanche, ça va. 2 dimanches, il y a eu Jean-Baptiste, c'est vrai, il avait une mission. Et voilà, les gens les quittent pour aller suivre Jésus. Même s'il était spirituel, il peut avoir accusé un petit coup. Jean chapitre 3, verset 26 à 27, ça j'aime, c'est la réaction de Jean-Baptiste et je prie que ça puisse être ta réaction et la mienne aussi. Les gens viennent presque à accuser Jésus. Les disciples vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et tous vont à lui. Jésus répondit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pas parce qu'il a compris qu'il devait jouer un rôle, nous reviendrons sur cela tout à l'heure. Et son rôle était arrivé à la fin. Donc j'ai dit abandon par des fils parce que nous n'arrivons plus à nous renouveler et à nous nourrir suffisamment. Mais j'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse que je fermerai rapidement. Quand il arrive que les gens nous abandonnent et nous nous rendons compte que nous avons tout fait, ce n'est pas forcément dû à nos manquements, nous ne devons jamais oublier ces principes que sur le chemin de la vie, Dieu nous attache 3 types de personnes. Le chemin de la vie et même du ministère, Dieu nous attache 3 types de personnes. Premièrement, il y a des personnes que Dieu nous attache pour la vie. Gens qui entrent dans notre vie et qui n'en sortiront jamais. Et il est bon que nous puissions prier pour ces genres de personnes. Mais deuxième type de personnes, il y a des gens que Dieu nous attache pour un but. Quand ils ont rempli leur mission, laissons-les partir. J'ai appris à avoir un don, les dons de rire, bye bye, au revoir. Car des fois, nous voulons retenir des gens qui ont joué leur rôle. Et troisièmement, il y a des gens que Dieu nous attache pour une saison. C'est pour un temps. Et quand leur temps arrive, laissons-les partir. Le pasteur Pays utilisait beaucoup cette image. Je ne la comprenais pas trop à l'époque. Et plus j'ai grandi, j'ai compris. Il parlait de ces vieux fusées américains, ceux qui sont un peu de mon âge, et peut-être légèrement connaissent avant qu'il y ait des navettes, même les navettes ont un peu ces principes. Fusées des États-Unis d'autrefois, c'est quand ça quittait le sol, ça arrivait à un certain degré, il y a une partie inutile qui reste, une autre continue. Et ce n'est pas la totalité qui quittait la Terre qui arrivait par exemple sur la Lune. Il y a des gens comme ça. Dieu veut qu'il nous accompagne jusqu'à un certain degré. Il arrive là-bas à qui Dieu a voulu qu'il s'arrête là. Laisse-les aller. Apprenons à dire bye bye. Merci pour ce chemin. Il y a des gens que Dieu nous attache pour la vie, d'autres pour un but et d'autres pour une saison. Cinquième source. Vient de nous, leaders, qui peut faire que des gens puissent nous donner des coups, c'est le manque d'anticipation pour pouvoir lâcher des fils mûrs et matures. Le manque d'anticipation pour pouvoir lâcher des fils mûrs et matures. Un peu comme en famille. Si un père ne sait pas anticiper, le fils viendra lui dire Nangina Lukanda Kunangai. Et si tu sais anticiper, tu sais aborder les sujets. N'oublions jamais que nos enfants, même dans la foi, même le plus docile, ont des ambitions. Et on ne doit pas les garder éternellement sous nous. Si nous les gardons dans les temps, parce que c'est les temps de Dieu, ils vont supporter. Mais si ça va au-delà, ça risque de créer des frustrations. Je me souviens un moment, j'étais en contact avec des amis, pasteur Kali et les autres. Kali, pasteur d'église. Nous, en génération, mon titulaire depuis 4-5 ans. Mon grand pasteur assistant. Boutavernois Bengabidalo, je ne veux pas que tu répondes aux invitations. Je ne veux pas que tu répondes aux invitations. Non, mon roi, mon nom rouge. Non. Demande à quelqu'un d'autre d'aller. Entre-temps, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Prière d'ouverture, prière de clôture. Présentation d'enfants. Je comme tu as dit, je vais faire ma prière d'ouverture. Je vais faire ma prière de clôture. Comme je disais à un ami, ma révélation, ils ont chômé comme embouteillage. La quatre la prière, Seigneur, merci pour le manteau de lit. Merci pour le mystère du manteau de lit. Comme je disais à un ami, je vais faire ma prière à présentation d'enfants. Overdose. Mais combien il est important que les parents sachent la chaise. Est-ce qu'il est mieux? Par rapport à la maturité, cela n'a pas forcément à faire avec l'âge, ni l'âge physique, ni l'âge dans la foi et dans les ministères. C'est quelque chose que l'on sait sentir. Tant l'un peut être déjà mature à 3 ans après, autant pour quelqu'un d'autre, il faudra attendre. Mais important que les parents apprennent à anticiper. Comme j'ai dit, c'est toujours bon que les leaders, par l'observation et la prière, anticipent cela. Un de mes pasteurs qui m'a enseigné à Nairobi disait, pour lâcher les enfants, l'idéal c'est de le faire au bon moment. Il a dit, les deux défauts, c'est les lâcher tôt, ou les lâcher tard. Il a dit, si tu les lâches tôt, il va apprendre par des erreurs. Et si tu les lâches tard, tu risques de créer des problèmes et chez lui et chez toi. Continuant à rester avec des frustrations. C'est pour cela, nous qui sommes des pasteurs titulaires, tu es des pasteurs titulaires ici, aidez-moi à lever les mains. C'est à nous que je m'adresse principalement. N'amenons pas des gens au-delà de la patience. J'insiste en disant, tous ceux qui sont sous nos responsabilités ont des ambitions. Tu vas bouleverser les morts. Tu vas écrire des livres. Parce que le livre, bouleverser le monde. Bouleverser le monde, c'est la prédication en mariage. Que des erreurs nous avons commises dans ce sens-là et que se sont retournés vers nous. Nous avons vu le diable et des fois ce n'était pas forcément le diable. Et sur ce plan, le roi Darius est un bel exemple. Dans Daniel chapitre 6, verset 1 à 3, la Bible dit Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être répartis dans tout le royaume. Le verset 3 dit Daniel lui-même, Daniel 6, 1 à 3, Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et les rois, j'aime beaucoup, les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Les rois réfléchissent. Je dois placer celui-là à tel endroit. Je dois réfléchir à tel autre endroit. Donc j'aborde maintenant le deuxième point, toujours de cette catégorie. Le numéro un, là, sont les choses causées par eux-mêmes, mais deuxièmement, causées par les autres. Parmi les choses causées par les autres qui sont comme des coups que nous recevons, la trahison. Par trahison, j'entends l'infidélité sans cause. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait personnellement. La personne vous laisse tomber. Vous décidez de vous faire mal pour plusieurs raisons. Soit par ambition personnelle, ou des fois simplement par souci de vous nuire. 1 Samuel chapitre 15, verset 1er. Nous avons lu au départ jusqu'au verset 6. Parle d'un père qui reçoit un coup de la part d'un fils. David ne s'imaginait nullement qu'il allait recevoir un coup. Et si coup il pourrait y avoir, il ne s'imaginait jamais que ça allait venir d'Absalom. Bizarre. David est palais royal. Mais la Bible nous montre que Absalom est en train de nuire à son père. Les gens veulent aller chez David. C'est vrai, David est avancé en âge. Il n'a plus la force, il n'a plus la vigueur d'autrefois. C'est sûr, la justice est lente. Absalom, pourquoi tu ne viens pas aider David? Papa David, fais un effort. Rends un peu plus de justice, sois un peu plus ouvert. Et quand les gens venaient, faisaient genouflexion, ils se mettaient à dire, qui m'établira? Parce que si vous allez là-bas, vous n'aurez rien, rien, alors rien de bon. C'est une trahison que David expérimente. Et combien ça fait mal. On voit non seulement Absalom qui part, finalement il y a aussi Achitophel. Il y a même la révélation d'un homme qui a fait très très mal à David, qui était de la famille de Saül. Il s'est mis même à jeter la poussière, et pourtant des gens qui étaient quasiment à la solde. Et David, donc la première des choses, c'est la trahison, c'est-à-dire infidélité sans cause. Deuxième chose qui peut faire que d'autres nous fassent du mal, c'est le simple désir de nous nuire. Simple désir de nous nuire. La première, c'est la trahison. Deux, les gens qui simplement veulent nous nuire. Et là, j'aimerais insister, nous n'avons aucune idée des gens qui n'aiment pas ce que nous faisons. Jean chapitre 10, verset 20, verset 31 à 33. Par des gens qui voulaient nuire à Christ. Plusieurs d'entre eux disant, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? C'est 31-33, les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus reprit leur parole, la parole dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Et Juif lui répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Est-ce que toi qui es homme, es fait Dieu? Trahison. Deuxièmement, simple désir de nous nuire. Troisièmement, jalousie. La jalousie. Cette jalousie, elle peut avoir deux sources. Cette jalousie peut venir des fils qui sont sous notre responsabilité, qui ont l'air d'être vrais et qui veulent notre place. Cette jalousie aussi peut être externe, dans les quartiers où vous habitez, la contrée où vous habitez, ou de votre travail, peut-être un ou deux membres qui quittent une église pour venir chez vous. Ce n'est pas évident que l'autre pasteur va vous acclamer. Jalousie. Souvent, on n'aime pas en parler. Même, on en parle de moins en moins. Mais elle existe réellement dans l'œuvre de Dieu. J'ai même tenté de poser la question ce matin. Y a-t-il un jaloux ici? Elle existe dans l'œuvre de Dieu. Elle existe dans le ministère. Elle existe parmi ceux qui partagent les ministères. Elle existe parmi les serviteurs de Dieu. Samuel chapitre 18. Verset 8 au verset 9. Parlant de l'attitude de Saül à l'égard de David, après que David ait tué Goliath, femme se met à chanter, David a tué ses mille. Saül a tué ses mille, David a tué ses 10 000. C'est ce que la Bible dit, une très grande colère s'empara de Saül. Il prit mal la chose. Il dit, on en donne 10 000 à David, c'est à moi qu'il en donne 1 000. Il anticipe lui-même, il dit qu'il ne lui manque plus que la royauté. Écoutez ce que le verset 9 dit. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours-là et dans la suite. Simplement, au cours du fait que celui-ci a quelques avantages qu'il aurait voulu avoir. Jean chapitre 12, verset 9 au verset 11, parlons de l'attitude des principaux sacrificateurs, la Bible dit, la foule nombreuse des Juifs a pris. Jésus était là et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Verset 10 dit, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, c'est-à-dire Jésus aussi. Parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Ils souffrent de voir les gens attachés à Jésus. Ils disent, un, Jésus lui-même doit partir. Et deux, c'est lui qui est comme un panneau de mystère montrant sa gloire. Jean-Baptiste, il doit aussi partir. Nous n'avons aucune idée combien de gens qui nous dérangent. Et des fois, nous les dérangeons pour de petites choses. Mon pasteur t'aime, l'un des pasteurs te confie certaines choses et cela dérange. Cela dérange. Cette jalousie, comme je l'ai dit, elle est bien présente, bien qu'elle est souvent camouflée. Cette jalousie, comme je l'ai dit, peut venir des collaborateurs, mais elle peut venir aussi de ceux qui estiment que nous et notre façon de faire dérangeons leurs intérêts. Les occultistes, les magiciens, les fausses religions, les gens qui sont tout autour, ne les dit pas ouvertement. Et c'est comme une compétition qui ne dit pas son nom. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 23 jusqu'au verset 28. À ce moment-là, survinrent des troubles assez graves au sujet de la voix du Seigneur. Un offrève du nom de Démétrius, fabricant des temples d'Artémis en argent et qui procurait aux artisans un grand profit. Il rassembla avec eux les gens du métier et dit, tous vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, pour la persuader et détourner notre grande foule en disant que les dieux faits par les mains des hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore et réduit à rien le temple de la grande déesse Artémis, et même des dépouiller son prestige, celle qui toute l'Asie et le monde entier rendent un culte. Intérêt. À cause de cela, il faut le détruire. Depuis qu'il est venu ici, les gens ne viennent plus autant. Tu es entouré de certaines églises, entre guillemets, pas basées sur la parole de Dieu, sache qu'ils t'acclament. Ils sont jaloux de toi, ils ne les disent pas. Ils travailleront physiquement, ils travailleront même spirituellement. J'aimerais que nous puissions savoir qu'il y a des gens qui sont jaloux de nous, mais qui ne sont pas toujours de notre, à côté de nous. Un roi chapitre 18 au verset 4 parle de Jézabel qui faisait l'extermination des prophètes. Pourquoi? Parce qu'elle estimait qu'il y avait un problème d'intérêt. Matthieu chapitre 23, verset 37, parlant de Jérusalem, parle de Jérusalem comme la ville qui tue les prophètes, mais aussi la ville qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Matthieu 23, verset 37. Une autre source qui peut faire que nous recevons des coups de la part d'autres personnes,